Donc on va commencer par la présentation de Christine Albert, qui est psychologue et qui va nous parler donc de la place du psychologue en simulation.
Bonjour à vous, Christine Albert, je suis psychologue au CHU dans le service de néonatologie et de gynécologie obstétrique et je vous propose de réfléchir avec vous à la place que peut prendre un psychologue en simulation. Alors, à Caen, on a décidé de travailler autour, et Anne Bello vous l'a dit, autour de la question de l'annonce à la mauvaise nouvelle, et on a décidé de travailler à la formation à l'annonce de la mauvaise nouvelle en simulation. Alors, pourquoi travailler autour de la mauvaise nouvelle? Parce que Albi nous l'a dit, c'est ce qu'un médecin n'a pas envie de dire à quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre. Donc, au fond, ça dit bien qu'on a besoin de se préparer à cette rencontre. On sait que c'est un moment difficile pour le médecin et pour le patient, et le constat est fait, en tout cas, on a fait le constat à Caen, au CHU, que peu de formations à la pratique de l'annonce et à la pratique de l'entretien sont proposées dans le cursus des études médicales et paramédicales. Alors, avec Anne Bello, on a fait la proposition de former les internes à l'annonce de la mauvaise nouvelle en simulation. Et on a commencé ce travail, je pense, il y a 7 ans, 8 ans, je ne sais plus bien. Et parce qu'on a fait aussi le constat que si en simulation, la philosophie, c'est de ne pas faire un geste technique pour la première fois chez un patient, après tout, une annonce, un entretien, on pouvait aussi s'entraîner à le faire pour ne pas le faire la première fois chez un patient. Alors notre cadre, vous allez voir que je parle beaucoup du cadre, les psychologues on nous fait remarquer qu'on parle beaucoup du cadre de nos interventions, des dispositifs. Alors notre cadre de formation à l'annonce de la mauvaise nouvelle en simulation, quel est-il? Les formateurs d'abord. On a décidé de travailler en binôme, un médecin, un psychologue, formé à la simulation médicale d'une part et à la simulation à l'annonce de la mauvaise nouvelle d'autre part. Les formateurs sont garants du cadre et nous pensons qu'il ne faut pas de simulation à l'annonce en dehors de ce cadre défini à NorSIMS, en tout cas à Caen. La philosophie de la simulation en santé doit être respectée et notamment on est très attentif, vous l'avez déjà entendu ce matin, à la sécurité émotionnelle et ces moments de simulation à l'annonce sont des moments d'intenses émotions pour les apprenants. Et pour les formateurs aussi d'ailleurs. Alors on débute la journée par un cours théorique sur les recommandations de l'HAS. L'HAS a proposé des recommandations sur l'annonce de la mauvaise nouvelle et sur l'annonce d'un dommage lié aux soins. Et ce cours théorique, ce rappel théorique, est fait par le ou la psychologue. Alors je dis là parce qu'il n'y a que des femmes pour l'instant. Pourquoi la psychologue? Parce que plusieurs recommandations de l'HAS évoquent les aspects psychologiques au moment de l'annonce. Par exemple, quels sont les mécanismes de défense des patients, hein? Quels mécanismes de défense vont mettre en place les patients pour se défendre, pour accepter l'annonce? Donc ça, nous allons les détailler en donnant des exemples cliniques de ce que peuvent être ces mécanismes de défense. Les recommandations de l'HAS évoquent par exemple l'importance du lieu où annoncer. Et nous allons, mes collègues et moi, puisque nous sommes plusieurs psychologues à proposer ce temps de formation, nous allons avoir des illustrations cliniques pour illustrer ces recommandations, j'en dirai un mot tout à l'heure. Notre cadre de formation, pour continuer, les apprenants, quels sont-ils? Ce sont des internes en fin de formation. On a démarré, Anne vous l'a dit, avec les internes en pédiatrie, puis en gynécologie obstétrique, et actuellement, nous sommes en train de former de plus en plus d'internes de spécialité à la formation en simulation à l'annonce de la mauvaise nouvelle. Actuellement sont formés les internes de chirurgie, les internes d'anesthésie-réanimation, bientôt certains internes de médecine, puisque nous augmentons le nombre de formateurs possibles pour encadrer ces moments de simulation. Alors la place du psychologue dans ce moment-là, c'est de veiller à la sécurité émotionnelle, les émotions étant fortes dans ces moments d'annonce et notamment dans ces moments de simulation à l'annonce, et je parle des émotions-là des apprenants. Par exemple, certains internes ont pu dire « j'avais envie de partir, j'ai cru que j'allais pleurer » ou « j'avais peur qu'il se fâche encore plus, j'ai eu envie de me lever et de partir ». Alors, Cette séance de simulation génère beaucoup d'inquiétudes chez les apprenants, mais peut-être vous avez eu le loisir de voir un poster fait par Anne Bello sur comment les internes évaluent ces séances de simulation. Ils sont inquiets, émus, mais à la fin de cette séance de simulation, ils nous disent qu'ils sont dans une énorme majorité, très contents d'avoir pu assister à ces séances. Notre cadre de formation, encore, les patients simulés, et je passe vite, d'abord des acteurs bénévoles, puis des acteurs professionnels, et actuellement, nous faisons appel à des patients simulés, formés. Il y aura un atelier sur ces questions demain. Les scénarii des annonces sont donnés un mois avant la session et sont donc travaillés par les formateurs en amont, bien avant. Et les formateurs sont disponibles pour les patients simulés afin de répondre à toutes leurs questions. Notre cadre de formation, enfin, il se fait en simulation au laboratoire de simulation. Le temps de scénario du jeu est de environ 15 minutes, hein, mais ça dépend un peu des séances. Un interne annonce pendant que les autres le regardent dans une autre pièce filmée. Hein, vous avez tous comme ça des labos avec des classes sans teint. Et le temps de débriefing se fait avec le groupe, avec ou sans les patients simulés, selon les formateurs. Alors pourquoi ce cadre dont on pourrait penser qu'il est peut-être rigide? Alors pourquoi ce cadre? Pour que les internes de toutes les spécialités bénéficient d'une formation la plus homogène possible. Puisque là, chaque apprenant va bénéficier de son débriefing et de celui des autres. Et puis, on est attentif, je vous l'ai dit, à la sécurité émotionnelle, et le cadre permet de garantir, en tout cas, plus on est au clair sur le cadre, plus on garantit la sécurité émotionnelle. Des formateurs d'abord, hein, puisque tous les formateurs qui ont fait ces formations disent combien ils sont un peu tendus avant, hein, puisqu'on a devant nous des internes inquiets qu'on va devoir accompagner avec bienveillance. La sécurité émotionnelle des apprenants, d'autre part, hein, on est attentif, et en simulation vous l'êtes toujours, au fait que les apprenants partent renforcés positivement de nos séances de formation. Et bien entendu, des patients simulés, on vous l'a dit tout à l'heure. La permanence de ce cadre, la réflexion autour de ce cadre, nous permet, nous semble-t-il, de garantir cette sécurité. Alors pourquoi une psychologue En tout cas, c'est comme ça qu'on a travaillé la question à Caen. Vous nous donnerez vos expériences après, et sûrement vous en avez d'autres. Je l'ai dit pour détailler les questions théoriques données par l'HAS. Les mécanismes de défense chez le patient, leurs émotions. Et évidemment, les mécanismes de défense chez le médecin aussi. Hein. Le médecin n'est pas indemne de mécanismes de défense. Pourquoi l'HAS insiste sur le lieu de l'annonce, pourquoi le choix des mots, etc. Donc nous allons pouvoir donner des exemples cliniques de ces questions-là. Les mécanismes de défense, les médecins, vous en entendez toujours parler, comment se manifestent-ils? Comprendre certains mécanismes de défense ou certaines émotions permettra aux apprenants d'adapter leur annonce. Par exemple, vous avez tous entendu parler du déni. Eh bien, qu'est-ce que c'est le déni? Donc, nous allons, dans le temps du temps théorique du début de la matinée, dire exactement ce que c'est que les dénis et pourquoi, au fil des sessions, on leur demande de ne pas insister face au déni, et nous donnerons une explication psychologique de cette raison. Pourquoi certains patients sont dans des mécanismes de régression, c'est-à-dire régressent à un état un peu puéril, un peu infantile. Pourquoi ces patients agissent de cette façon, de façon inconsciente. Pourquoi, face à la colère, un médecin peut réagir en miroir et pourquoi on leur demande de ne pas le faire. Les psychologues se définissent en service somatique ou en service psychiatrique. Il se trouve que les psychologues qui font partie de notre pool de formateurs sont toutes attachées à des services somatiques. Et ces psychologues entendent toutes, beaucoup, très souvent, les patients évoquaient leur vécu psychique de l'annonce. Elles en ont toutes une expérience clinique. Moi, j'entends très souvent, il m'a annoncé ça, j'en ai eu les jambes coupées, les bras m'en sont tombés, j'ai eu envie de vomir, j'ai eu le sentiment de tomber dans un trou, etc. Toutes ces métaphores corporelles, les psychologues entendent vraiment les patients évoquer tout ça. Alors, pourquoi choisir de s'asseoir pour annoncer, par exemple, c'est des débats, je ne sais pas s'il faut s'asseoir ou pas. En tout cas, dans nos formations, nous avons très souvent ce débat. Le médecin doit-il s'asseoir ou peut-il rester debout? Vous en entendrez sûrement parler quand vous ferez des simulations à l'annonce. Et pourquoi le lieu de l'annonce est important? Eh bien, nous, psychologues, on va pouvoir s'appuyer sur les exemples cliniques que les patients nous ont donnés. C'est des exemples que je vous donne qui sont très récents pour moi. Une dame me dit, il était debout, donc il, c'est le médecin, il était debout et moi j'étais assis, j'avais l'impression qu'il n'avait pas le temps de me parler. Ou bien, on était dans un bocal au milieu du service, il avait peur qu'on se fâche sans doute. Ou bien, j'étais debout dans la salle de bain, appuyé au mur, et lui il était à la porte, je n'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Voilà, tout ça c'est des exemples. Alors évidemment, on en a beaucoup, les uns et les autres, et on va pouvoir nous s'appuyer sur nos exemples pour illustrer certains objectifs, certains propos. Alors pourquoi une psychologue ou un psychologue encore? Les psychologues ont une formation à l'impact traumatique de l'annonce. On entend toujours que l'annonce peut être traumatique. Qu'est-ce que ça veut dire traumatique? Eh bien, nous, on a un savoir théorique sur ce que c'est qu'un traumatisme et comment... ce que c'est qu'un traumatisme et comment on peut le traiter. Et donc, on peut parler de l'impact traumatique de l'annonce et de ses conséquences à court et à long terme, et là encore, en s'appuyant sur des exemples cliniques, parce qu'on sait que les psychologues disent c'est marqué au fer rouge, c'est peut-être un peu fort, mais les patients peuvent parler 20 ans après de comment on leur a annoncé, où ils étaient. Je me rappelle d'une mère qui me racontait comment le médecin était habillé quand il avait... il avait une blouse, mais comment le médecin se tenait debout 10 ans après quand on lui avait annoncé une mauvaise nouvelle. Pourquoi un psychologue encore? Eh bien, dans l'écriture du scénario, alors bien entendu dans notre binôme médecin-psychologue, les scénarios sont écrits à deux voix, à deux mains. Les psychologues et les médecins écrivent ensemble les scénarios et on peut participer en tout cas à réfléchir à comment écrire l'émotion du patient simulé, bien entendu, en fonction de l'objectif défini, et ça, vous l'avez tous en tête. Dans le débriefing, alors on sait qu'en simulation, le débriefing est un moment central de nos moments de formation. Bien entendu, nos débriefings sont faits entre le médecin et le psychologue. On est très, très attentif au fait de garder sa place. Il n'est pas question que le psychologue aille se mêler d'un point de vue médical. C'est très, très angoissant pour les apprenants ou pour les patients de voir que les gens quittent leur place. Et donc ce partage des tâches, alors souvent on a l'habitude de travailler ensemble, mais ce partage des tâches, on le fait très vite avant le débriefing. Alors on sait qu'il ne faut pas perdre de temps, puisque les premiers mots sont très importants après la scène, mais en quelques minutes on se partage les tâches. Bien entendu, nous avons pris le soin de prendre des notes assez précises pendant tout le temps du scénario. Alors le psychologue, son boulot, en tout cas c'est comme ça qu'il le perçoit, c'est de travailler beaucoup autour des émotions. Alors en simulation, souvent les débriefings commencent par comment tu t'es senti, comment tu vas. Et le psychologue, il va insister un peu là-dessus quand il pense que c'est possible d'insister. Par quelles émotions l'apprenant a été traversé pendant l'annonce? Anne disait, les médecins sont impactés par leurs émotions au moment de l'annonce. Bien entendu qu'ils le sont. Très souvent, ils le sont sans le savoir. Et ils le sont souvent, évidemment, comme pour nous, de façon inconsciente. Alors, cette phrase, pourquoi cela te fait ça à toi? On va essayer d'aller un peu plus loin en fonction de comment on sent l'apprenant au moment où on le fait, bien entendu, toujours dans le respect et sans aller trop loin s'il ne peut pas y aller. Comment tu t'es senti? Comment tu vas? Alors, très souvent, ça commence par très bien ou très mal, mais évidemment, on va aller plus loin. et on va essayer de détailler les mots-clés. On va essayer d'aller un peu plus loin sur le langage non-verbal, par exemple, hein, sur la posture, sur le ton de la voix, sur le rythme des mots. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et quand on perçoit des moments de fragilité de l'apprenant, on les perçoit, on les note, et on va tenter, au moment du débriefing, de revenir avec lui ou avec elle sur ces moments de fragilité. Si on sent que l'apprenant est dans un moment de ne peut pas y aller, et ça, nous le sentons, c'est-à-dire qu'il dit « tout va bien », on sait qu'on ne peut pas y aller, mais heureusement pour nous, il y a le groupe, et beaucoup d'entre nous sommes formés à la dynamique de groupe, enfin en tout cas à la formation de la prise en charge des groupes et du travail avec les groupes, et donc on va pouvoir s'appuyer sur le groupe si l'apprenant, lui, ne peut pas en dire quelque chose. Hein. Et vous, et toi, et vous, ça vous aurait fait quoi à vous ? Et il y en a toujours un pour dire, mais c'est l'horreur, moi j'aurais pas su quoi dire. Voilà. Hein, et donc les membres du groupe vont pouvoir nous aider dans ce débriefing si l'apprenant lui-même ne le peut pas le faire. Ah non, mais là c'était l'horreur, hein. Je sais pas comment t'as tenu, moi j'aurais pas pu. Hein, voilà. Donc on insiste beaucoup hein, sur la confidentialité des échanges. D'ailleurs, je suis étonnée de ne pas l'avoir vu sur ma diapo. Alors on démarre comme ça, hein, on démarre sur le fait que ce qu'on se dit dans ce moment de travail ne sort pas. Alors un exemple de débriefing, parce que les psychologues ne sont pas toujours faciles à comprendre, je le sais, on nous en fait parfois le reproche. Un interne en pédiatrie, par exemple, devait annoncer un dommage lié aux soins. Et il avait face à lui un patient qui jouait la colère. Évidemment, nous avions écrit hein, toutes les réactions du patient simulé. Et un des objectifs était qu'il ne réagisse pas en miroir face à la colère. Et donc, il commence à annoncer un dommage lié aux soins, qui était une perfusion qu'avait diffusée. Et face à lui, il a un patient debout et qui est vraiment en colère. Et au début, l'interne est plutôt calme, posé, et explique les choses tranquillement. Et puis, petit à petit, face à la colère, il commence à parler de plus en plus vite, et puis de plus en plus fort. Et puis, visiblement, il perd un peu son calme, il montre de l'accalmement, et physiquement, alors qu'il était tranquillement assis, appuyé au dos de sa chaise, il s'avance, ferme les poings, et marque son mécontentement. On avait évidemment demandé aux patients simulés de ne pas aller de baisser le ton s'ils sentaient que l'interne perdait trop son calme. Donc notre patient nous obéit. S'il ne nous obéit pas, on lui dit un petit mot dans l'oreillette. Et donc le patient baisse le ton et la scène se termine. Et donc on demande à l'interne comment ça va. Il dit bien. Donc bon, alors comment tu as démarré? Ben non, j'ai bien vu qu'ils étaient en colère. Bon, je vous passe, hein, je vais pas vous faire les 20 minutes des débriefings, rassurez-vous. Et donc voilà, lui il a pas senti. Donc à un moment je lui dis mais là le patient il était un petit peu en colère. Là comment tu t'es senti? Non, ça allait. Ouais, comment t'as senti? Comment tu lui parlais? Ah ouais, je parlais un petit peu plus vite. Oui, et puis alors ça, je me mime. Hein. Et puis, je laisse un petit peu de silence. Ah ouais, je crois que j'ai monté le ton. Bon, etc., etc. Et puis, si on peut, on va vers le langage non-verbal. Si on sent, c'est-à-dire, mais à un moment, physiquement, comment tu t'es senti? Et là, il dit, ah non, mais là, j'ai senti un truc qui montait, voilà. Donc là, vous voyez, on le fait réfléchir à qu'est-ce que ça te fait à toi. Et donc, il fait l'expérience qu'il peut réfléchir à son émotion, la mettre à distance et réaliser qu'effectivement, eh ben là, il a été un peu en miroir de la colère. Et le groupe, et vous alors, qu'est-ce que ça vous a fait? Ah non, mais moi j'aurais été à sa place, je serais partie, etc., etc. Un interne en chirurgie doit annoncer une tumeur bénigne à opérer. Il doit annoncer cette tumeur à la mère d'un enfant. Et il doit réagir à la détresse de cette femme. Un des objectifs était entendre la souffrance psychique et la peur, même si elle est décalée. C'est-à-dire qu'en fait, la mère réagit de façon très forte à une annonce qui, pour le médecin, n'est pas grave. Et donc, l'interne commence à annoncer cette tumeur à opérer en précisant qu'elle est bénigne, etc., etc. Et la mère s'effondre et se met à pleurer. Et l'interne devient extrêmement froid, extrêmement à distance, parlant de façon assez mécanique. Et donc, dans le débriefing, on lui demande comment il s'est senti, je vous passe. Et puis, petit à petit, le psychologue va tenter de débriefer cette froideur-là. Et donc, on lui dit, alors, quand la mère s'est mise à pleurer, et là, physiquement, il a les épaules qui tombent, il dit, non, mais là, c'est l'horreur, là. Alors, si les patients pleurent, moi, j'ai qu'une envie, c'est les prendre dans les bras. Et comment tu t'es sentie, alors, face à cette émotion d'avoir envie de les prendre dans les bras? Eh bien, il ne fallait pas que ça se voie. Donc, du coup, il ne fallait pas que ça se voie. Donc, cette réaction dont on aurait pu penser qu'elle était extrêmement froide était en fait une empathie extrême. Et le groupe va nous soutenir dans cette réflexion. J'ai encore le temps ou j'ai débordé? C'est bien. Un dernier exemple, peut-être, une interne en obstétrique qui doit annoncer une nuque épaisse en anténatale à 12 semaines de grossesse lors d'une échographie. L'objectif fixé est de ne pas répondre à toutes les questions, l'HAS nous recommandant de ne pas annoncer ce dont on n'est pas sûr. Hein? Donc l'interne commence l'échographie et dit il y a une nuque épaisse et nous avions écrit le scénario en fonction de notre objectif et le père devait poser des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire une nuque épaisse? Dites-moi, moi je veux la vérité, etc., etc. Et l'interne répond à toutes les questions. Alors, ça peut être, je ne suis pas sûre de me rappeler tout ce que peut être une nuque épaisse, le signe du... mais enfin, en tout cas, il répond à toutes les possibilités de diagnostic sur ce que peut être une nuque épaisse, sauf que, après tout, ça peut être rien d'autre qu'un signe échographique. Donc finalement, voilà, et donc on débrief avec l'interne en disant, donc il t'a posé des questions, oui, comment tu t'es sentie au moment des questions? Ben, bien, bon, tu as répondu, on regarde, ben ouais. Mais donc, est-ce qu'il faut répondre à toutes les questions? Ben, bien sûr, si on nous pose les questions. Donc, on a débriefé ça. Est-ce qu'il faut répondre à toutes les questions? Moi, je ne réponds pas à ça, je vous la renvoie. En faisant référence aux recommandations de l'HAS. Et puis, tout d'un coup... J'ai eu un blanc, excusez-moi. Et puis, on s'est appuyé sur le groupe. Pourquoi on répond à toutes les questions? Eh bien, parce qu'ils avaient tous en tête... une question, enfin un point dans les questions de l'OCN qui est on doit faire une annonce loyale, complète, etc. Donc l'annonce loyale, complète, etc., ben, c'est on répond à tout. Donc on a pu discuter ensemble de qu'est-ce que c'est une annonce loyale et complète, est-ce que c'est répondre à tout. Le rôle de psychologue en simulation encore, et j'en finirai avec ça, nous participons à la formation de formateurs, nous sélectionnons, nous screenons les patients simulés, et puis nous avons actuellement des projets, et on a déjà fait des simulations en équipe. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je vais dire, apprendre entre guillemets, hein, la psychologie, c'est un métier. Et en tant que moi, je suis médecin, je fais des simulations sur. Alors, je ne parle pas de simulation d'annonce, je parle de simulation sur, mettons, je parle, prise en charge d'un polytraumatisé, par exemple. Et puis, dans le débriefing, modèle de débriefing, première phase, réaction, gestion de l'émotion, etc. Et puis je me retrouve dans cette fameuse phase de réaction qui est décrite partout dans les articles avec des choses que je ne sais pas faire. Donc dans la place du psychologue en simulation, quelque part, c'est un appel au secours, quoi. Cette gestion des émotions, des réactions dans le débriefing, ça nous embête tous. Alors, qu'est-ce qu'on est content quand il y a un psychologue qui est là pour faire ça? Ça veut dire qu'il nous faut des psychologues à temps plein sur tous nos débriefings. Alors, je ne sais pas comment dire, c'est une question, mais bref, comment on fait, quoi.
Alors, merci beaucoup. Bien entendu, on pourrait aussi participer à plus de choses que seulement l'annonce. En même temps, vous allez jusqu'où vous pouvez par rapport à cette question, mais je dois dire que quand j'ai fait ma formation à la simulation médicale, hein, puisque tous les psychologues ont fait la formation à la simulation médicale, j'ai été assez troublée de cette première question, comment vous vous sentez et comment passer vite. Mais bien, chacun, chacun son métier. Hein. Voilà. Mais je suis sûre que vous le faites en fonction de ce que vous pouvez.
Oui, bonjour. Donc pour compléter, donc moi je suis Pascal de Rennes, je suis médecin aussi. Et on organise des formations à l'annonce d'un dommage sur le modèle qui avait été mis en place à Angers. Et on est effectivement un binôme, on débrief, on est plutôt deux médecins. On s'est posé la question de savoir si l'apport du psychologue. Et en fait, c'est plus la ressource nous a fait réfléchir comment on pouvait faire. Et je prends la parole pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait. Effectivement, on essaye de donner de l'importance à ces premières questions-là. Puis, en fait, on s'aperçoit de plus en plus qu'on utilise ces premières questions pour la quasi-totalité du débriefing, après, sur comment vous sentez, puis surtout ce que retournent les acteurs, les patients simulés. Et du coup, la question, c'est... je fais un commentaire et en même temps une question. Du coup, le psychologue, comme on n'a pas les moyens pour qu'il vienne à chaque fois, pour temps plein, etc., vous êtes déjà... Pas nombreux dans les établissements. On va se dire, tous les 3 ou 4 sessions de formation qu'on fait, on propose à un psychologue de venir et d'assister à la journée et à nos débriefings. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. C'est-à-dire, comme on n'arrive pas à faire des binômes avec un psychologue, on a, dans le groupe de travail pour construire la formation, on l'a faite avec un psychologue. Et qui depuis, en fait, nous accompagne. Et je vous dis, une fois par an, on va dire, il vient nous voir sur une journée de débriefing. Donc, on en fait 4 ou 5 et voilà, on fait un retour. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez réagir.
Non,
à
mais
ça.
Je pense qu'effectivement, hein, ça demande de la créativité et d'utiliser les ressources. En tout cas, je ne sais pas si on n'est pas nombreux au CHU. Enfin, voilà, on est un certain nombre. Mais le fait de proposer à plusieurs psychologues, hein, du coup, d'étendre au fond le pool de psychologues formés à la simulation médicale, nous aide à pouvoir répondre de façon plus large. Et je dois dire que beaucoup de psychologues ont répondu favorablement à cette demande, hein. C'est-à-dire que beaucoup de psychologues sont intéressés par ce dispositif. Souvent, ils sont pas rétifs au cadre, et donc ils peuvent tout à fait entrer dans ce dispositif.
Je fais juste un petit élément de réponse pour un petit peu surenchérir. Pour travailler avec Christine donc sur les questions de l'annonce en binôme médecin-psychologue et faire des sessions de mise en situation, donc de réanimation néonatale pure, où là, effectivement, on n'a pas de psychologue. Ce que je pense qu'on a appris, c'est le respect dont Christine a parlé, le respect de sa place. On peut parler des émotions, mais de notre place, et on ne va pas les creuser du tout de la même manière. Et c'est important, en fait, parce que ça va teinter complètement le débriefing. On a besoin de savoir comment ils se sont sentis pour savoir comment on démarre et comment on va pouvoir avancer, si ça a été très mal vécu ou bien vécu. Mais ça, c'est déjà une question, et c'est quelque chose dont on peut faire quelque chose sans être psychologue. Après, bien sûr, s'il y a des choses plus profondes à creuser, c'est évident que quand les psychologues ne sont pas là, chacun sa place. Moi-même, je n'irai pas. Pour autant, on travaille beaucoup ensemble. J'ai vu faire, mais je ne suis pas psychologue. Donc, voilà. Mais on peut faire les deux, je pense. Une dernière question, et après,
oui,
on enchaîne.
Juste une remarque aussi. Effectivement, souvent, Thomas Bonnion, moi, je travaille pas mal aussi avec des psychologues. Je pense que les psychologues, ils sont intéressés aussi de pouvoir faire le retour aux médecins. Quelquefois, il y a une coupure qui se fait que les psychologues n'ont pas toujours le temps de nous donner le retour des annonces. Et toutes ces formations-là, même pour les formateurs, c'est intéressant. Les psychologues viennent nous revoir. Ma question, c'est plus, est-ce que le rôle du psychologue aussi, c'est pas aussi quelquefois de sécuriser ses formations elles-mêmes, parce qu'on joue beaucoup avec, on se retrouve à jouer avec de l'émotion pour lequel on est un petit peu embêté, et on sait qu'il y a des choses qui vont se passer pendant le débriefing, mais qui peuvent se passer quand les gens rentrent le soir. Question bête, est-ce qu'ils partent avec un numéro de téléphone, ou est-ce que vous les revoyez à distance?
Alors, vous avez raison, hein, la sécurité émotionnelle, j'ai essayé de le dire, est essentielle dans ces moments. Il nous est arrivé, enfin, alors, le CHU de Caen n'est pas si grand, et ça, vous nous trouvez, hein, vraiment. Moi, j'ai eu quelques retours, effectivement, d'apprenants venant me revoir après des séances de simulation. Ils savent que c'est possible. Ils nous connaissent un peu, hein, puis s'ils ne nous connaissent pas, ils apprennent à nous connaître. Alors c'est vrai qu'on est aussi, c'est pour ça qu'on est très attentif à la formation des formateurs, hein, la formation des formateurs médecins et la formation des formateurs psychologues. Hein. Certains médecins m'ont dit, mais moi j'annonce depuis 15 ans, est-ce que c'est bien utile que je me forme ? Eh ben, moi je sais lire depuis 50 ans et pourtant je n'apprends pas à apprendre à lire. Hein. Eh ben, les psychologues c'est pareil, on est très attentif à cette question-là. Et le fait de ce cadre-là, pour nous, est une garantie de sécurité émotionnelle. Mais je vous rejoins, quand on sent que ça s'est mal passé pour un apprenant et que peut-être on n'a pas été suffisamment attentif à ce moment-là, certains sont venus frapper à ma porte ou m'envoyer un mail, en fait. Et peut-être que pour mes collègues, ça s'est passé de cette même façon. On est, en tout cas, je sais qu'on est attentif à ces questions-là et qu'ils savent aussi qu'on peut les recevoir. Ouais. Tout à fait.
Merci beaucoup. Donc, on enchaîne.